On va prier dans la joie. Genèse chapitre 3, verset 15. Il parle d'une promesse. Une promesse de victoire. Pensez à cela. Est-ce que votre pensée ne s'est jamais été prise sur les promesses de Dieu qui nous amènent une victoire dans ma vie, une victoire absolue dans ma vie? Sa semence va blesser la tête du serpent, va écraser la tête du serpent. En Afrique, je n'ai jamais marché sur un serpent. Je l'ai tué, je l'ai ouvert avec un couteau. C'est pour ça que j'aime cette portion des Écritures. De marcher, écraser la tête du serpent avec ton talon, tu marches. C'est une promesse dans Genèse 3. C'est relié dans Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7. Ça reflète l'œuvre accomplie qui va écraser la tête du serpent, l'œuvre accomplie de la croix. Ésaïe chapitre 9, je pensais quand j'étais assis là-bas, ça reflète pour moi la grâce de Dieu. Ce que j'aime à propos de ça, il est dit deux fois dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est dit envers nous. C'est pour qui ça? C'est pour nous, envers nous. Envers nous. C'est tellement personnel. Tu peux regarder un message parfois à la Noël, dans la Bible, tu ne comprends pas. On ne pense pas souvent comment ça nous parle personnellement envers nous, un enfant est né. Un fils nous a été donné. C'est une promesse de Dieu. J'aime 2 Corinthiens 1, 18 à 20. Vous êtes avec moi, vous suivez? Toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui. Et en lui, amen. À la gloire de Dieu. Par nous. Combien de promesses? Toutes les promesses de Dieu sont en lui. Elles sont en lui, oui, et pas non, et amen. Ça, c'est une portion des Écritures formidable. Chaque promesse. Quoi d'autre? Je veux être sûr dans ma vie personnelle. Tous, on voudrait faire ça d'une certaine mesure. D'être sûr que je n'élève pas les promesses au-delà, au-dessus de celui qui les promet. Parfois, les promesses, parfois je me dis, ça doit se passer maintenant cela. Et Dieu dit, j'ai fait une promesse et je suis celui qui va décider quand la promesse va venir. Je ne veux pas élever les promesses au-dessus de celui qui promet, le prometteur. Abraham, beaucoup, beaucoup d'années avant qu'Isaac soit né, il a dû attendre. Il a dû s'attendre, lui, au prometteur. Les promesses, parfois, dans sa vie, ont pris place de celui qu'il est. Il a vu de loin, ils ont vu de loin les promesses de Dieu. J'aime cet aspect de la victoire. Il va écraser la tête du serpent. Ce sont quoi les promesses de Dieu lorsqu'on parle du Messie, de Jésus-Christ et de la venue du Seigneur Jésus-Christ? Il nous amène une grande joie. C'est quoi sa promesse? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Dans l'Ancien Testament, le mot c'est devar, epigelio dans le grec, le Nouveau Testament. J'ai regardé à 5 aspects de la définition d'une promesse. Premièrement, c'est donné par la grâce. C'est donné par la grâce. Toutes les promesses de Dieu sont données par sa nature et son caractère. Numéro 2, c'est une parole personnelle pour vous et moi. Cette promesse est quelque chose de personnel. Ce n'est pas uniquement donné par la grâce, mais c'est personnel envers moi. Troisièmement, l'Esprit accomplit les parfaits, les promesses. Je n'essaye pas moi de les accomplir. C'est donné par la grâce. C'est un mot, une parole personnelle. Et le Saint-Esprit, il performe, il accomplit. Des promesses. As-tu jamais essayé d'accomplir une promesse? Ça ne marche pas. Donné par la grâce, une parole personnelle, le Saint-Esprit accomplit. Et ça, c'est un but éternel, un dessein éternel, n'est-ce pas, Pasteur Mohib? Un dessein éternel. Numéro 5, toutes les promesses de Dieu lui amènent la gloire. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Elles sont incroyables. Pasteur Denis a dit au culte avant à 9h ce matin. Les gens qui disent il y en a 7000 ou plus, j'ai jamais pris le temps de les compter. J'ai demandé à Philippe Saragi, peut-être il va les compter lui. il aura le temps, pendant ses cours-là, au collège biblique. Ça serait incroyable de s'asseoir là. Peut-être ça va prendre la semaine de figurer ça, là, toutes les promesses de Dieu, de les compter. Elles nous sont données. Non pas uniquement pour Israël, mais à l'Église aussi. Elles nous sont données. Et j'aime ça. Je pensais envers nous, un enfant est né, un fils nous a été donné. Ça ne parle pas tellement de l'incarnation. Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. En fait, ça parle de l'incarnation. Jean chapitre 1, verset 5, lorsque tu penses que Dieu est devenu un homme, tu te rappelles, toi, parfois dans la rue, je rencontre des gens à l'évangélisation, on frappe aux portes, ils ne sont pas d'accord, ils disent c'est impossible, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Dieu n'est pas venu un homme. Les gens religieux ont dit c'est un blasphème, il est devenu un homme, Dieu, ils vont dégrader les gens qui parlent de Allah. Et je dirais, les ténèbres ne comprennent pas cela. Jean 1, verset 5, les ténèbres ne peuvent pas comprendre Jésus-Christ. Les ténèbres ne peuvent jamais comprendre que Dieu est devenu un homme. Ils ne peuvent jamais comprendre le dessein de Dieu. Les ténèbres ne peuvent jamais comprendre ce que l'Église est à propos de cela. Les ténèbres ne peuvent jamais comprendre que l'on reçoive ça et qu'on les reçoive, qu'on les accepte. Les docteurs ne comprennent pas ça. Lorsqu'il est devenu, il n'a pas été reconnu à part des rois, des rois mages, des anges et des bergers. Le monde était enveloppé dans les ténèbres. Le monde s'assoit dans les ténèbres, dans Matthieu. Et ils ont vu une grande lumière, ces gens-là. Tu te demandes pourquoi, parfois, les gens ne te reçoivent pas ce que tu dois dire au travail, dans le voisinage ou la famille. Hello? Tu te demandes pas pourquoi, parfois, ils peuvent. Tu auras peut-être un repas à Noël, les gens que tu les aimes. Tu veux tellement que tu veux révéler, que Christ soit révélé dans ta vie. Mais ce n'est pas compris. C'est incompréhensible. Je me rappelle la première fois lorsque j'ai été sauvé en 1976. Mes amis ne pouvaient pas comprendre. Tu dis, tu ne vas plus fumer de la drogue avec nous. Tu ne vas plus sniffer de la drogue, de l'héroïne, te shooter avec une aiguille. Non, jamais plus. Tu ne vas pas être avec nous dans le coin chaque nuit, le coin de la rue. Je passais ma vie entière à l'extérieur, moi, dans les coins de la rue, les nours et les juillets et les nours, et les nuits et les jours. Les ténèbres ne comprennent pas. Katalambeno dans le grec, ça ne peut pas accepter ça, ça ne peut pas le saisir, ça ne peut pas le recevoir, ça ne le comprend pas. Ces ténèbres qui sont dans le monde là n'ont aucune capacité de comprendre ce qui se passe, de ce qui se passe. Ils ont des jours de vacances, mais ils ne connaissent rien à propos des mots, des jours saints. Il fait un jeu de mots en anglais, holiday, holiday. Ce n'est pas dans la Bible, les ténèbres ne comprennent pas ça du tout, rien. La religion, il y a tout genre de sortes de ténèbres. Les ténèbres religieuses, c'est les plus difficiles. N'est-il pas dit que Jésus appelait les pharisiens, la hiérarchie des scribes et des pharisiens, ce sont des diables, des serpents, mais il n'a jamais dit ça à une prostituée ou à un scribe. Il appelle ces gens-là des serpents. C'est incroyable pour moi, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ténèbres complètes. C'est pas que les autres vivent dans le péché. Il y a une différence entre le péché et le mal. Le péché est court de la ténèbre de la gloire de Dieu. Le mal attaque la gloire de Dieu. N'oublie jamais ça, nous sommes pécheurs. Et on est court de la gloire de Dieu. Mais le mal, il n'est pas court de la gloire de Dieu, il attaque. Ils détestent le christianisme, le mal. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas que Jésus soit exalté, aimé et élevé à cette époque de l'année maintenant. C'est à propos de quelqu'un d'autre pour eux. Si on ne fait pas très attention, l'ennemi a une façon d'enlever les choses. Fais attention, les ténèbres ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire qu'ils ne comprennent pas. Je ne peux pas croire qu'ils ne reçoivent pas la lumière. Lis la Bible, la ténèbre ne comprend pas. Les ténèbres ne comprennent pas. Vous me suivez? Il est dit ceci. Jean 1, 10. Le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a aucune idée qui est Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Il est dit. Le monde ne l'a pas connu. Ça parle d'une relation intime qui est personnelle. Le monde connaît à propos de Dieu, mais ne connaît pas Dieu. Le monde ne l'a pas connu. Le système du monde dans lequel on vit, qui est une opposition et qui est aliéné de la vie de Dieu, ne connaît pas Dieu. Ils connaissent peut-être quelque chose à propos de Dieu, historiquement, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et c'est ce qui est encore plus intéressant. Il est venu vers les siens, Israël. Il est venu vers les siens. Et c'est les siens, sa famille ne l'a pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu, aucune réception, rien. Ils ne l'ont pas laissé venir proche, s'approcher, les siens. Les ténèbres ne le comprennent pas. Le monde ne l'a pas connu et les siens ne l'ont pas reçu. Waouh, c'est intéressant, n'est-ce pas? Mais j'aime le verset suivant. Mais autant de ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'autorité et la puissance de devenir les enfants de Dieu. À ceux même qui croient en lui. Cette victoire-là, la victoire de Jésus-Christ à la croix, l'œuvre accomplie, le sang. Rappelez-vous, ils ont mis, lorsqu'ils avaient échoué, ils avaient mis la peau. Dieu a dû tuer un agneau, n'est-ce pas, Dieu? Peut-être un ange l'a fait, vous pensez, moi non, je ne pense pas. Il les a revêtus avec des peaux d'animaux. Il y avait un sacrifice là. Cette prophétie, alors qu'on voit qu'il est accompli dans Isaïe chapitre 9, versets 6 et 7, c'est envers nous. Dites-le ça. C'est envers nous. Ça, c'est incroyable. Le premier nom, le mot nom, ça signifie toujours le caractère de Dieu. Son nom, chaque langue va confesser et chaque genou va se plier devant lui. Le nom de Jésus-Christ qui a été donné parmi tous les hommes, il n'y a pas de nom plus haut. Son nom parle de son autorité, de sa nature, de son caractère. Le premier, c'est formidable. Formidable, merveilleux, il est appelé. Merveilleux. C'est un mot incroyable dans le langage hébreu qui signifie « il est extraordinaire ». Il est au-delà, au-delà et au-dessus du naturel. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Pas là, c'est le mot. Il est merveilleux, c'est surnaturel. Dieu est devenu un homme. Pouvez-vous vous imaginer pendant un moment, avec nos capacités limitées parfois, Dieu est devenu un homme. Il est appelé dans les Écritures le seul bien-aimé. C'est un mot anglais qui est utilisé, mais je n'ai jamais compris ça. Mais lorsque tu regardes dans le mot grec, dans le langage hébreu aussi, il est dit, il est l'unique, le seul. Dites ça, il est celui-là, il est le seul. Il est le unique, il est le personnel, il est celui qui est éternel. C'est ce qu'il est appelé dans Jean 1, 14, Jean 1, 18, 3, 16, 3, 18, 1, Jean 4, 9. Il est appelé monogénis. Il est celui, le seul, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Il y a beaucoup d'années, on chantait ce chant. Il n'y en a pas d'autre comme Jésus. Pour moi, peu importe que moi je suis pécheur, je vais vers mon Seigneur qui est sur le trône, il n'y en a pas d'autre comme Jésus envers moi. Personne d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Il n'est pas juste un enseignant. Toute sa religion qui dit il est un bon enseignant, il est un bon homme, il est un prophète. Il est un des dieux menteurs. Il est le seul, l'unique, l'uniquement l'éternel. Celui qui m'aime, celui qui t'aime, toi, celui qui vous aime, celui qui a payé le prix pour vous, celui qui a payé le prix pour moi. Il est merveilleux. C'est pour ça que chaque jour est merveilleux. Ça, c'est un temps pour l'année merveilleux ici, extraordinaire, cette époque de l'année-là. Il marchait avec lui, il ne savait pas qui il était. Pouvez-vous vous imaginer ça? 11 ou 12, en comptant Monsieur Judas, ils n'avaient aucune idée qui il était. Même jusqu'à la fin, il a dit, je vais pécher. Nous aussi, on va aller avec toi. Jésus a dit, tu ne vas jamais pécher encore à la pêche. Ils n'ont pas vu. Actes chapitre 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à comprendre qui il était. Il était merveilleux. C'était l'homme Dieu. Celui qui est complètement, absolument Dieu. Et complètement et absolument homme. Et on pense, quelqu'un qui vient et essaie de comprendre ça, pourquoi pas vivre par la foi, simplement, je crois Dieu uniquement, ok? Je n'ai pas besoin de comprendre. Combien d'entre vous et moi, parfois on essaie de comprendre tout, on veut tout comprendre, je ne comprends rien. Tu roules sur un pont, mais tu ne sais pas comment il a été conduit, comment il a été mis en place, comment il a été construit ce pont. Tu vas par la foi. Hébreux 11, 2. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. On l'élève bien haut. Dans Matthieu chapitre 17, il était là. Il était transfiguré devant eux. Et ils l'ont vu parler avec Moïse et avec Élisée. Il était merveilleux. Il a fait les miracles des pains. Il était merveilleux. Il a le vin, le jus de raisin, le vin, il a transformé. Ils ont été remplis et remplis et remplis les vases. Il a guéri l'aveugle, un homme pauvre, celui qui était sourd, celui qui ne voyait pas et celui qui ne pouvait pas parler, il a rendu la parole. Marc chapitre 2, le paralytique, il a rendu la marche. Il a chassé 600 démons dans une femme. Il a ressuscité la fille de Jairus des morts. Il est appelé merveilleux. Surnaturel, extraordinaire, le seul, l'unique. Ça, c'est notre Jésus. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? On le voit élevé. Il est merveilleux. Ésaïe savait ce que ça voulait dire. Le Saint-Esprit a révélé ça. Il est merveilleux. Et pourquoi pas avoir un Noël merveilleux? Alors que vous adorez celui qui est merveilleux. On est tellement émerveillés. On peut aller sur la planète Mars. Pourquoi? Il n'y a rien d'autre là-bas. On peut aller sur la Lune, dans la profondeur des océans, trouver ce qui se passe. On va partout. Les ingénieurs, parfois, ils disent, l'homme est formidable, tout ce que l'on fait. Non, il n'est pas formidable, il est un pécheur. Il devient merveilleux lorsqu'il reçoit celui qui est merveilleux. Il devient merveilleux alors, à ce moment-là. On regarde ce que les gens sont capables d'accomplir et on pense que, tu sais quoi? Peut-être tu as vu beaucoup d'accomplissements. Tu vois quelqu'un sur la croix qui meurt et qui saigne. Il est persécuté. Jésus est formidable, mais merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Tu peux imaginer lorsqu'il va revenir, quel jour merveilleux ça va être. L'enlèvement va être merveilleux, formidable. L'évangile, merveilleux. Tu es dans la rue parfois le vendredi, le samedi, tu parles à propos de celui qui est merveilleux, formidable. Tu parles aux gens. On ne parle pas du pape, un homme, on ne parle pas d'aucun aspect, d'un ange. On parle de celui qui est merveilleux envers nous. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a été appelé merveilleux. Et ce deuxième nom, conseiller. Et en passant, ça ne veut pas dire qu'il va nous conseiller de la façon dont vous pensez. Ça veut dire d'avoir le dessein de la parole de Dieu, le but de la parole de Dieu, de le langage hébreu. Ça signifie que Dieu a un but et il est trouvé dans sa parole. Je parlais à quelqu'un hier. Une situation qui s'est passée. La personne a dit, elle vivait, la personne-là, dans l'anxiété. Vous savez, un psychologue, psychopathe, lui a dit, lui a conseillé, un psychologue, psychopathe, ce qu'ils leur ont dit, ils ont dit, ce que tu dois faire pour ton anxiété, va fumer de la drogue ou bien va prendre une ordonnance de médicaments. C'est ce que les docteurs lui ont dit. Ou bien tu dois essayer. Jamais je vais aller dans un de ces gens qui sont malades là. si c'est la souveraineté de Dieu, vous pouvez aller. C'est un conseiller formidable, n'est-ce pas? C'est grand, c'est du diable, oui. Tu vas fumer de la drogue, c'est là où tu prends ton anxiété. Ça va te donner encore plus d'anxiété de fumer de la drogue, de la cocaïne, de l'héroïne. Et tu vas devenir un alcool et tu vas être un addict accroché à tout ça, l'alcool ou la drogue. Quel genre de conseil c'est ça? Tu sais ce que c'est que le conseil de ce monde? C'est la folie, c'est fou. Ils vont te dire de commencer de dépenser. Tu vas être endetté complètement, tu vas être en faillite, en déroute complètement. Jésus est un conseiller, il est mon conseiller, amen. Un enfant qui a été donné, le Fils a été donné le conseil par la grâce, par le Saint-Esprit, on reçoit du conseil de cette Bible. S'il y a un problème, il n'y a aucun problème qu'on ne peut faire face dans cette vie que le Saint-Esprit n'a pas la réponse pour nous. Est-ce que vous m'écoutez? Je n'ai pas besoin d'aller là ou là-bas ou ici, dans cet endroit ou cet endroit. Les gens vont courir dans tellement de directions différentes. J'ai entendu à propos de cette personne, il a la spiritualité incroyable, il va m'aider. Qu'est-ce qu'il parle des gens, les psychiques? Ceux qui lisent les mains, ils ont des signes dans les vitres là. Psychique. Lisez la paume de votre main. Oh, ma paume de ma main est sale. Tu vas lire la paume de ma main? J'ai les mains sales. Est-ce que tu blagues? Tu vas lire ma main, ces choses-là? Les lignes de ma main? Ils ont du conseil. Là. Du conseil. Tu ne vas jamais te marier à cette personne-là. Je vais te dire pourquoi. Je vais te donner 23 raisons pourquoi tu devrais. Je vais te donner une seule raison pourquoi tu devrais. Parce que c'est sa volonté. Le conseiller. Quelqu'un qui était là, Jésus est mon quoi? Mon conseiller. La parole est mon conseiller. Ésaïe chapitre 11, versets 3 et 4. Dieu est mon conseiller. Il a appelé le merveilleux et le conseiller. La chose suivante qu'il a appelé, Dieu Tout-Puissant, El Gebor. Si c'est ce que ça veut dire, il est mon héros. Jésus est mon héros. Pas de quelqu'un qui... on remercie Dieu pour le football, l'American football, et ceux qui s'en donnent de nouveau. Ce sont pas, mon héros, ce n'est pas quelqu'un qui est un sportif. Mon héros n'est pas un politicien. Mon héros n'est pas un roi. Mon héros n'est pas même moi, mon héros. Mon héros n'est pas ma femme, j'aime ma femme. Il s'appelle Al Gabor, le Dieu Tout-Puissant. Il est notre héros. Il a gagné la victoire, il a la puissance, il a l'autorité. Il est El Gabor, il est le Dieu Tout-Puissant. Les démons tremblent à son nom. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de créer. Il a créé l'univers. Il peut tout faire. Il a la puissance, l'autorité de changer quiconque que ce soit dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est incroyable. Ça, c'est un enfant qui a été né et le Fils qui a été donné par le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, non pas par la force, non pas par la puissance, en Zacharie chapitre 4, verset 6b. Non pas par la force humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est incroyable. Peu importe dans quelle situation es-tu, il y a le Dieu Tout-Puissant, ça peut changer. Genèse 17, 1, Dieu a parlé à Abraham, il est venu vers lui en tant que Al Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il lui a dit, tu n'as pas été capable d'avoir un enfant, moi je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait, le Dieu Tout-Puissant. Tu regardes à ce monde ici, on voit tellement de situations qui se passent, il pourra des troubles là, des problèmes, mais le Dieu Tout-Puissant, El Gabor peut changer ça. El Gabor peut faire une différence, il est notre héros. Il n'est pas juste formidable, merveilleux, il n'est pas uniquement le conseiller, mais le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, il est le Père éternel. Qu'est-ce que ça signifie? Envers nous, un fils aîné, un enfant nous a été donné. Il est le Père éternel. Qu'est-ce que ça signifie? Il a un but et un plan qui est éternel. Et je regarde à lui. Il a un but et un plan pour ma vie qui est éternel. Avez-vous jamais essayé d'avoir eu quelqu'un qui vous a donné un plan pour votre vie? N'est-ce pas? Les parents essayaient de faire ça avec leurs enfants. Où avez-vous ces ouvriers? Tu sais le faire ça. C'est partout. Si tu ne fais pas attention, les pasteurs peuvent faire ça avec la congrégation aussi. Dieu est le Père éternel. Jésus est appelé le Père éternel. Il a le plan. Il a la provision. Il a le but. Il est appelé quoi? Le prince de quoi? Celui qui règne de la paix. Le prince de paix. Il a la victoire. C'est ce que ce temps de l'année ici, cette époque, c'est ça à propos de ça. Envers nous, un fils est né. Un fils nous a été donné. Et voici son nom. C'est celui. C'est lui. C'est celui que l'on suit. C'est celui qui nous a donné le Saint-Esprit et il vit en nous. Et ça, c'est tout par la grâce. On a prêché un message un jour. J'étais en Afrique de l'Est. Peut-être Pasteur Eugène va me corriger. C'est quoi les 5 animaux qu'on essaye d'inviter en Afrique? Les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, les lions et les buffalos des eaux. Ces 5 animaux, tu les évites en Afrique. Ils s'appellent les 5 grands. J'avais une fronde un jour. 50 mètres, 75 mètres. J'ai frappé un éléphant avec ma fronde. J'ai touché. Mais c'était pas le bon endroit où je l'ai touché. Il a commencé à bouger avec ses pieds, à gratter le parterre. Il a commencé à charger la voiture. J'ai dit au conducteur de la voiture, pars, démarre. Une année, les éléphants se rappellent, tu sais. Une année plus tard, on est retourné, l'éléphant avait vu la même voiture, et ils ont de la mémoire, et il a commencé de faire bouger, venir vers la voiture. Il allait m'attendre, vers moi. Tu veux les 5. Donc, il y a quelqu'un là qui aime les girafes. Les girafes sont gentilles. Les 5 grands de la grâce. Les 5 grandes choses. Là. Écoutez, on va terminer le message. Les grandes choses de la 5. Le Père a donné le Fils. Envers nous, un Fils est né. Le Fils, amen, n'est-ce pas? Jean 3,16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Le Père. Le Père éternel, il avait le plan, la provision et le dessein et la protection, il a donné le Fils. Le Fils a donné l'Esprit. Amen. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. L'Esprit a donné l'Évangile. A donné l'Évangile, le Saint-Esprit. L'Évangile à l'Église. Et l'Église donne la vie. C'est la grâce. C'est ce que c'est ça. À propos, c'est la grâce qu'un enfant est né et un fils nous a été donné. C'est la grâce pour vous et pour moi. C'est incroyable. Si on peut avoir la communion avec ça pendant ce moment de l'année, Dieu nous a donné sa victoire par la grâce. Une œuvre accomplie, une victoire de l'œuvre accomplie par la grâce. Il est merveilleux, formidable. Il est le conseiller, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père éternel. Il est le prince de la paix. Et lorsque l'ennemi entend ça, il tremble, il s'enfuit. Parce que c'est celui qui a écrasé sa tête. Si on vit dans cette victoire, j'aime les victoires, n'est-ce pas? Pas vous? J'aime les victoires. On est plus que quoi? On est plus que conquéreur par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur. On remercie Dieu que toujours il nous fait triompher en Jésus-Christ. Toujours. Communion à cette époque de l'année avec l'enfant qui a été donné, un fils qui nous a été donné, un enfant qui est né, qui veut dire, son nom signifie merveilleux, conseiller, Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Il est dit, le gouvernement. J'aime ça aussi, spécialement à notre époque à nous. Le gouvernement se reposera sur son épaule. La justice va venir de lui avec le jugement aussi. Ça, c'est notre Jésus. Amen. Ça, c'est celui qui est né. Père, on te remercie. Merci, Dieu. Merci pour tes promesses. La tête va être écrasée. La tête du serpent est écrasée. La victoire. Genèse 3,15. Le nom de grâce qui a été donné, merveilleux, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, prince de paix, prince de paix. C'est tout ça sur ses épaules. On te remercie pour la justice de Dieu. La vie de Dieu, la grâce de Dieu. C'est incroyable. Les ténèbres ne l'ont pas compris. Le monde ne le connaît pas et les siens ne le reçoivent pas. Mais autant qu'ils l'ont reçu, lui, ils ont la puissance de devenir un enfant de Dieu, même ceux qui croient en son nom. Merci pour la victoire et la promesse. Merci pour les promesses et la victoire. Si vous êtes ici ce matin, vous regardez ça sur l'Internet, c'est une opportunité ce matin de recevoir Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas gagner la victoire éternelle. C'est Dieu qui gagne la victoire. Et nous, on participe, on devient participant de sa nature divine. Les yeux fermés, les têtes baissées, simplement, dites Jésus, sauve-moi. Je crois que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, le Fils unique, le seul. Quiconque croit en lui aura, il va garder, il va être gardé pour toujours la vie éternelle. Nos yeux fermés, si c'est votre prière, notre tête baissée, levez votre main. Jésus, sauve-moi. Dites oui à Dieu. Si quelqu'un veut se lever la main ou pas, c'est une décision de ta volonté que tu fais. Dites oui à Dieu. Sur l'Internet, dites oui à Dieu. Merci Jésus. Merci. Des milliers d'années plus tard, les promesses sont sûres. Les promesses sont sûres. Merci que tu nous as donné des promesses excédemment grandes. Et par elles, on devient participant de la nature divine, ayant échappé la corruption du monde qui n'est pas la convoitise. Merci pour les promesses qui sont excédemment grandes. Touche-nous aujourd'hui. Donne-nous une opportunité incroyable pendant cette époque de l'année. Famille, amis, au travail. Des opportunités de révéler celui qui est un conseiller formidable. Un Père éternel, un prince de la paix. Montre-leur. Quelqu'un dans la Bible, tu sais qui c'est ça? Ça, c'est l'enfant qui est né et le fils qui a été donné. L'enfant, c'est le fils. Et le fils était l'enfant. C'est un miracle. C'est un miracle de la grâce. Et Dieu a fait des promesses. Que nous sommes participants de ces promesses-là. Levez-vous avec moi. Et on va remercier Dieu aujourd'hui. Père, on te remercie aujourd'hui. On prie pour Pasteur Schaller. Alors qu'il est à Budapest, à ce moment-là, dans les jours qui suivent, il va revenir. Bénis-le spécialement, Olga, qui était dans un accident aussi. Merci de la protéger. Aide-la. Donne-nous, Dieu, des gens pour parler, des portes ouvertes. Prie pour ça, Dieu. Donne-moi une personne dans les prochaines 2-3 semaines, une personne avec qui je peux partager un message. Je peux leur dire, l'enfant, c'est le fils, et le fils, c'est l'enfant. Et son nom, qui il est. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas comprendre, qui ne connaissent pas et qui ne reçoivent pas. Mais Dieu, tu nous donnes des gens. On te remercie aujourd'hui. On prie que tu bénis le culte de ce soir, assise à 18h30. Que tu nous touches aujourd'hui. On te remercie pour qui tu es. Merci pour la joie que l'on a à la Noël. À l'époque de Noël, dans notre vie, sur un quotidiennement, mais une joie spéciale pour ce temps de l'année. Merci Seigneur. Les bergers ont eu une grande joie. Les rois étaient émerveillés à sa magnificence. On te remercie. Les anges ont regardé en bas vers lui pour le salut. Prie que tu vas nous délivrer, Dieu, de ce que les hommes sont à l'extérieur de Dieu, en dehors de Dieu, ce que les hommes sont. Qu'on ne soit pas des participants à cette époque de l'année, mais qu'on regarde au Fils de Dieu, le seul, l'unique. le seul, l'unique, le personnel, l'éternel Dieu. Bénis notre journée, Père, aujourd'hui. Protège-nous. Merci pour un jour qu'on peut regarder un vertuange. Levez vos mains vers Dieu et remerciez Dieu. Merci Jésus, dites merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Merci pour l'Esprit. Merci pour notre but. Merci Dieu. Merci que je suis dans les mains de Dieu, mon Père. On prie que tu bénis notre journée. Ramène-nous ce soir avec une grande attente au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous êtes libérés.